Voilà, écoutez, je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir à 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Parce que, comme vous le savez, on est dans une série. Et elle continue, c'est un petit peu la série éternelle, d'accord? Mais pas vraiment, parce qu'elle va s'arrêter quand même un jour. Mais c'est une série qui découle de deux versets, vraiment, ou d'un chapitre, mais disons de deux versets, sur l'inspiration de la Bible. D'accord? Alors, on va les lire parce que c'est vraiment notre texte de base qu'on a déjà examiné en détail, mais c'est le tremplin pour ce matin. Alors, dans 2 Timothée 3:16, Paul écrit à Timothée ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors là, ce texte veut dire quoi? Ces mots que je viens de lire disent ceci. Toute écriture, donc la parole de Dieu, on a déjà regardé en détail, la parole de Dieu inclut l'Ancien et le Nouveau Testament, est inspirée de Dieu, soufflée de Dieu littéralement. Donc la Bible dit d'elle-même qu'elle est vraiment de Dieu. Dans chacun de ses détails, jusqu'à la plus petite des lettres. Mais regardez, ça n'est pas là. Elle est aussi utile. Utile pourquoi ? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et donc, basé sur ces versets, j'ai commencé une série que j'ai intitulée « Pourquoi faire confiance à la Bible ?» C'est capital. Nous sommes chrétiens, ça veut dire que nous croyons en Jésus-Christ, la Bible nous parle de Jésus-Christ, ben, est-ce que la Bible est fiable ou pas ? Si elle n'est pas fiable, on a un vrai problème. Donc on doit pouvoir prouver qu'elle est vraiment fiable, qu'elle est vraiment inspirée de Dieu, qu'elle est vraiment authentique. Et donc aujourd'hui, c'est la cinquième partie dans notre série, d'accord? Alors je révise très brièvement, si vous n'étiez pas là, mais très brièvement, d'accord? La première partie que nous avons vue, on s'est simplement posé la question sur la révélation de Dieu à l'homme. On s'est posé la question, mais est-ce que Dieu s'est vraiment révélé aux hommes? Ben, c'est logique, si on a sa parole, ça implique qu'il a dû se révéler à l'homme. Et on a vu que oui, Dieu s'est révélé de trois grandes manières. Premièrement, au biais de la création. Deuxièmement, au biais de la conscience de l'homme qui est imprégnée en nous. Et troisièmement, au travers de la parole inspirée de Dieu. On a vu toutes ces manières que Dieu a communiqué la parole, dont par Jésus-Christ, par les prophètes, par les hommes, par la parole inspirée de Dieu. Première partie. Deuxième partie. On s'est penché sur ces versets que je viens de lire, l'inspiration divine des Écritures. On a examiné en détail ces versets, si vous n'étiez pas là, vous pouvez aller prendre le CD, écouter, aller sur le site. Troisième partie, on s'est penché sur le témoignage de Jésus-Christ par rapport aux Écritures. Une étude fascinante où on voit ce que Jésus lui percevait ou comment lui percevait les Écritures. Quatrième partie qu'on a commencé la semaine dernière, les preuves externes, que j'appelle les preuves externes de la Bible. Et là, la logique, elle est comme ceci. L'Ancien et le Nouveau Testament prétendent être la parole inspirée de Dieu. Donc, elles prétendent être une révélation spéciale et directe de Dieu. Alors, si c'est vrai, la question est celle-ci. Est-ce que la Bible donne l'impression d'être un livre qui nous vient vraiment de la part de Dieu ? Est-elle imbibée d'une nature divine? Beaucoup de groupes religieux prétendent que leur livre est une révélation de Dieu. Et parmi toutes ces affirmations d'inspiration de livres religieux, il est logique que celle qui est vraiment de la part de Dieu soit totalement différente des autres, un livre qui est réellement imprégné de l'empreinte de Dieu, un livre que j'appellerais unique dans son genre. Eh bien, lorsqu'on compare la Bible avec d'autres livres sacrés, c'est précisément ce que nous voyons, les marques d'un livre surnaturel. Alors, j'ai mentionné qu'il y avait environ 15 preuves pour le prouver. Alors, on a commencé, il y en a 15, peut-être 16 ou 17. Et là, on a commencé la semaine dernière et on continue aujourd'hui, d'accord? Alors, je reliste ces preuves externes de l'inspiration de la Bible. Premièrement, on a parlé de la conception de Jésus-Christ de la Bible. Elle est différente, la Bible, dans sa conception de Jésus-Christ. On a vu que la personne de Jésus-Christ et la conception d'une telle personne n'existent tout simplement pas dans les autres religions du monde. Pourquoi ? Parce que le christianisme, écoutez bien ce que je vais dire, n'est pas une religion, mais une personne. C'est tout différent. Les autres leaders religieux du monde ont tous prétendu montrer le chemin de la vie qu'ils ont découvert. Ah, Jésus, lui, a déclaré être ce chemin, la vérité et la vie. Tout à fait différent. C'est encore révision, hein. Deuxième preuve externe, la conception de l'homme de la Bible. Car la Bible dépeint l'homme d'une manière très différente que les autres religions du monde le dépeignent. On a vu que la Bible affirme que l'homme, premièrement, a été créé dans l'image de Dieu, dans Genèse 2:7, mais que sa dignité a été noircie par son péché pour lequel il est pleinement responsable. Et à cause de son péché, il est coupé de Dieu et le chaos existe dans le monde. 3. La troisième preuve comme quoi la Bible est inspirée de Dieu, preuve externe, c'est sa conception du salut. Et là, c'est peut-être, comme j'ai vu la semaine dernière, une des choses qui démarque le plus la Bible par rapport à toutes les autres religions. Nous avons vu qu'il n'existe dans le monde vraiment que deux religions. La religion du salut par les œuvres et de l'effort humain, ou bien deuxièmement, la religion, j'aime pas le mot religion, mais disons la religion du salut par la grâce de Dieu. On a vu que la très grande majorité des religions du monde se regroupent dans sa première, dans ces deux catégories, comme quoi le salut de l'homme dépend des bonnes œuvres de l'homme. Voici comment on dépeint les religions du monde. Fais des bonnes œuvres, fais-en beaucoup. Car Dieu, à la fin, regardera ta vie et lui va faire une sorte de comparaison, il va tirer les balances et s'il y a plus de bonnes œuvres que de mauvaises œuvres, t'es ok, tu rentres. Mais s'il y a plus de mauvaises œuvres que de bonnes œuvres, alors là c'est fini, tu rentres pas, c'est terminé pour toi. Voilà, globalement, ce que le monde et les religions du monde nous apprennent. Et on a vu la semaine dernière le chemin du Parikrana hindou, ce mouvement de pierre pendant des mois et des mois pour essayer d'acquérir quelque chose de la part de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que seul le christianisme biblique donne une conception différente de la voie du salut. L'homme est pécheur, il est donc condamné par Dieu. Il ne peut rien faire pour se sauver lui-même par ses propres efforts. Pourquoi pas? Parce que Jésus dit que le critère de Dieu est nul autre que la perfection. Si tu veux te sauver par tes propres œuvres, essaye. Il faut simplement être parfait. Matthieu 5, 48. Et si tu rates en un truc, un péché, c'est fini. Jacques 2, 19 nous dit qu'un péché, c'est trop. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Éphésiens 2, 8 et 9, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et voici le radical du christianisme, mes amis. Vous ne pouvez rien faire pour vous sauver vous-même. Vous ne pouvez que par la foi accepter le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ qui s'est donné pour toi. Il a pris sur lui son péché, il te donne en compensation quelque part ou en retour, il te donne ta justice, sa justice. Il te pardonne pour ton péché et ça, c'est gratuit. 4. Quatrième preuve externe, son unité surprenante. La Bible est un prodige dans sa formation, écrit par 40 auteurs qui avaient 19 occupations différentes, qui ont écrit sur une période de 15 siècles, dans 11 endroits géographiques différents, écrivant plus de 10 styles littéraires différents. La Bible reste un prodige dans son unité parfaite. 5. Son indestructibilité. Comme l'enclume d'un forgeron, les marteaux de la persécution se sont brisés contre la Bible. Combien dans l'histoire de Dioclétien, les papes, les conciles, on n'a même pas vu des gens comme Voltaire, comme Thomas Paine, comme Joseph Staline, toutes ces personnes qui ont prédit et qui ont tout fait pour éliminer la Bible du monde, se sont tous complètement trompés. Ils n'ont pas réussi. C'est impossible. La Bible et le christianisme sont indestructibles. Pourquoi ? Ben parce qu'ils viennent de Dieu. Et Dieu a un projet. Et si vous voulez savoir la suite des événements, allez au livre d'Apocalypse. Moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Moi, c'est assez marrant comme petit truc. Je leur dis, tu sais, écoute la Bible, regarde. Ça c'est le livre d'Apocalypse. Ça, c'est déjà tout arrivé. Tout ce qui reste, c'est ça. Moi, j'ai parié ma vie que si ça, c'est déjà arrivé? Ça va arriver. J'en suis convaincu. Le problème, c'est que je ne sais pas quand. Mais il va revenir. Mais là, je vais trop vite. Parce que ça, c'est un autre sujet, la prophétie. Ça, on va le voir dimanche prochain. D'accord ? Alors ça, c'était tout intro. Maintenant, on arrive au message d'aujourd'hui. 6. La sixième preuve externe de l'inspiration de la Bible, son exactitude historique. C'est vraiment intéressant. Son exactitude historique. Le très célèbre Dr. J.O. Kahneman a dit, et je cite, « Parmi les centaines de milliers d'objets découverts par les archéologues, aucun n'a jamais été découvert qui contredit ou qui refute ni même un mot, une phrase, une clause, ni même un paragraphe de la Bible, mais ces découvertes confirment la fiabilité du récit biblique. » Il y a moins d'un siècle, les agnostiques, ceux qui disent que l'au-delà est inconnaissable, et les libéraux disaient ouvertement comme quoi il y avait dans la Bible certaines erreurs historiques. Mais ils disaient, c'est plein d'erreurs. Puis avec les années, avec l'arrivée de la science et de l'archéologie, c'est comme avec chaque pelle de terre, l'exactitude historique ne fait que de se confirmer. Alors, il y a un homme que vous devez connaître, Sir William Ramsay. Il est beau, vous trouvez pas ? Alors, c'était un des plus grands géographes qui n'a jamais vécu. Il est parti de l'Angleterre au début du siècle pour faire une étude topographique de l'Asie mineure au 1er siècle. Donc, c'est ce qu'il voulait voir. Tellement était-il respecté que des scientifiques et des érudits de toute l'Angleterre sont venus pour le voir partir sur son voyage. Il a passé 30 années en Asie mineure pour y faire une carte topographique. Imaginez, 30 ans pour faire une carte. Sir William Ramsay était de l'école allemande dont les convictions étaient que le Nouveau Testament était un document du 2e siècle après Jésus-Christ. Pas 1er siècle, 2e siècle. Après Jésus-Christ, est donc un document qui ne pouvait être fiable ni historiquement, ni correct. Après 7 ou 8 années en Asie mineure, Sir William Ramsay avait épuisé toutes les ressources du matériel du 1er siècle et il est devenu très frustré. Il n'avait plus trouvé des trucs du 1er siècle. Un de ses collègues lui a suggéré de consulter le Nouveau Testament et surtout les écrits de Luc dans le livre des Actes, car le livre des Actes est un livre historique. Il a immédiatement rejeté l'idée. Pourquoi ? Car il disait que c'était un document du 2e siècle après l'ère de Christ et qu'ainsi ne pouvait en aucun cas être exact ni fidèle sur les détails du 1er siècle. Il a même dit, et je le cite, Luc, voici ce qu'il a dit, Luc, l'évangile de Luc ou le livre des Actes par Luc, est un livre imaginaire, un récit très colorié du christianisme primitif. Bref, c'est plein de fautes et plein d'erreurs. Des années se sont encore écoulées, il est devenu si frustré qu'il a enfin décidé de consulter le livre des Actes écrit par Luc. Et soudainement, tout a changé pour cet homme. Lui qui doutait l'historicité de ce livre a fait cette déclaration, je le cite. Luc est un historien de premier rang. Non seulement ses affirmations sont-elles vraies et fiables, mais cet auteur devrait être placé au rang des plus grands des historiens. L'historique de Luc dans son évangile et dans le livre des Actes ne peut être surpassé dans sa fiabilité. Il est possible de pousser les mots de Luc à un degré au-delà de tout historien. Luc subsiste les traitements critiques les plus rigoureux. Voilà. Question. Il a complètement changé d'avis sur Luc. Alors qu'est-ce qui a convaincu cet homme de changer son avis sur Luc ? Il disait avant ses recherches que les documents ne pouvaient être fiables et après ses recherches qu'ils étaient absolument fiables. Alors, prenez vos Bibles et je vais vous montrer. Allez à Actes 18. Actes 18, d'accord ? Et on va regarder ce qui a convaincu cet homme de la véracité du livre des Actes. Dans Actes 18 et au verset 12, nous lisons ceci. Actes 18 et le verset 12. Luc écrit « Pendant que Gallion était proconsul d'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal. » Alors Luc dit cette phrase, c'est un peu technique, suivez, d'accord, mais c'est intéressant. Pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, Luc utilise le mot proconsul comme titre pour Gallion. Le problème, c'est que dans toute la littérature historique de Gallion, qui était un personnage réel, connu, dans toute la littérature sur lui, un homme dont Sénèque même a beaucoup écrit, il n'y a aucune description de lui nulle part dans l'histoire, jamais, comme quoi il a été proconsul et certainement pas proconsul de l'Achaïe. Donc, ils ont conclu, Luc est dans l'erreur. Est-ce que vous croyez qu'ils ont cru Luc? Bien sûr que non. Ils ont cru le fait qu'il y avait absence de ce terme. Puis un jour, ils ont découvert les inscriptions de Delphes. Je ne sais pas si vous êtes très bon à déchiffrer les hiéroglyphes, moi pas. D'accord? Mais voici les inscriptions de Delphes, et voici ce qu'on peut lire sur ces inscriptions, je cite, « Comme Lucius Junius Gallion, mon ami est le proconsul d'Achaïe. » Et maintenant, notre ami Ramsay a dit « Une minute, s'il vous plaît. » Comment quelqu'un qui écrivait au IIe siècle pouvait-il être si exact et si précis sur un détail si minuscule sur un homme du 1er siècle? Il était perplexe, mais il a conclu que Luc avait raison. Autre exemple, acte 28. Acte 28 est le verset 7. Luc dit ceci, « Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île nommé Publius, qui nous reçut et qui nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Hein, » Paul est en navire, il va à Rome, il est prisonnier, il s'arrête là. Il est dit ici, dans acte 27:8, il parle du principal personnage de l'île nommé Publius. Alors, notre ami Sir William Ramsay a dit « Il n'y a même pas un exemple dans toute l'histoire d'une référence d'un titre de ce genre. » Ça n'existe tout simplement pas. Dans toute la littérature et dans toutes les découvertes archéologiques, il n'y avait pas une référence à ce titre, nulle part. Alors, qui est-ce que vous croyez qu'ils ont cru? Luc? Bien sûr que non. Ils ont cru le fait qu'il n'y avait aucune référence à ce titre autre part. Il conclut que Luc avait fait une erreur. Puis, ils ont fait une découverte archéologique. Des tablettes dont les inscriptions contenaient le titre « Le premier homme de Malte ». Et Ramsay a dit « Comment est-ce possible ? Un homme écrivait au IIe siècle, comment pouvait-il être si exact sur des événements du 1er siècle ?» Ramsay a été convaincu. Je vous donne encore un exemple. Acte 17, 6. Et même dans toute notre étude, je vous donne que quelques exemples, mais il y en a. C'est inépuisable, tous les exemples qu'il y a de ce genre de choses. Acte 17, 6. Paul dit ceci. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Alors malheureusement, les traducteurs de la version française de nos Bibles ont pris une liberté quand ils ont traduit le mot « magistrat ». Vous voyez ce qu'il dit ici? Ici, Jason et quelques frères ont été amenés devant les magistrats de la ville. Car en grec, le mot n'est pas magistrat, mais politarque ou politarche. Mais politarque, d'accord? Luc utilise le mot politarque pour décrire les autorités civiles à Thessalonique. Mais pour Ramsay et d'autres, ceci était une chose absurde. Car le mot politarque n'est trouvé nulle part, ni dans le grec classique. Ce mot n'est trouvé absolument nulle part. C'était un mot inconnu, jamais trouvé dans l'histoire. Alors, je ne sais pas si vous avez une Bible Scofield. Moi, j'en ai une, ça fait des années que je l'ai. C'est intéressant parce qu'il y a une note. Note 2 en bas de la marge, il dit « Politarque » ou « Politarchès ». Et ensuite, il dit, Scofield, « L'historicité des actes a parfois été mise en cause sous prétexte que les magistrats de Thessalonique n'avaient pas appelé Polytarque ou Polytarque. Cependant, il nous dit, une inscription sur l'arc de galère au-dessus de la voie ignatienne confirme bien l'usage de ce titre à Thessalonique. Tout d'un coup, il découvre un indice archéologique, bien que tout le monde avait dit, ben voilà, Luc se trompe, ils ont découvert un indice archéologique, qu'on vient de noter, où cette inscription existait. Et tout d'un coup, Ramsay a dit, comment est-ce possible? Et il a conclu alors que Luc était un des historiens les plus précis et les plus fiables de toute l'Antiquité. Moi, je trouve des trucs comme ça génial. Moi, ça me montre que, vous savez, c'est vrai, il y a des choses peut-être que vous lisez, vous ne comprenez pas trop. Vous dites, tiens, au fur et à mesure que les années avancent, au fur et à mesure qu'on est en train de confirmer, point par point par point, l'historicité fiable de la parole de Dieu. 7. Continuons. Ah, ça devient vraiment intéressant, d'accord ? C'est comme si le reste n'était pas intéressant. C'est tout intéressant, d'accord ? Mais c'est vrai que chaque nouveau truc est vraiment intéressant. Son exactitude scientifique, l'exactitude scientifique de la Bible. Alors, beaucoup de libéraux ont douté de la fiabilité de la Bible en disant qu'elle était scientifiquement erronée. Ils ont cherché à discréditer la Bible sur ce point. Il y a un homme qui s'appelle Aldous Huxley. Lui n'était pas trop pour la Bible. Il dit ceci, je le cite. « La science moderne rend impossible de croire à un Dieu personnel. Bertrand Russell a dit, un autre libéral, « L'homme est le produit de causes qui n'avaient aucune prévision de la fin qu'il accomplissait. Son origine, sa croissance, ses espérances, ses craintes, ses désirs et ses croyances n'ont comme origine une collection accidentelle d'atomes. Nous sommes le résultat d'une collection accidentelle, une collision ou une collection accidentelle d'atomes. » Ah, je me sens bien dans ma peau là, pas vous ? D'accord. Ce qui est intéressant à constater, c'est que plus la science avance, plus certains scientifiques veulent éliminer la nécessité de l'existence de Dieu. Autrefois, on disait « Dieu est tout-puissant ». Aujourd'hui, de plus en plus, on entend « la science est toute-puissante », n'est-ce pas ? Le chrétien ou les chrétiens sont constamment bombardés par des supposés conflits entre la Bible et la science. Et donc, on doit faire notre choix, on nous dit. En fait, ce que j'aimerais voir maintenant, brièvement, c'est qu'il n'y a aucun conflit entre la science et la Bible. Aucun. Dans l'histoire, beaucoup de scientifiques étaient des chrétiens engagés. Galiléo, Kepler, Descartes, Newton, Pascal, il y en a plein qui étaient des chrétiens vraiment engagés, mais qui étaient des scientifiques aussi. Alors, ce qu'il faut par contre comprendre, c'est que la Bible n'est pas un manuel scientifique. On est d'accord ? D'accord ? Qui veut dire que la Bible n'utilise pas toujours les mots scientifiques que nous connaissons pour décrire des réalités scientifiques. La Bible est une révélation de Dieu à l'homme, pas un manuel scientifique. Mais il y a néanmoins des déclarations étonnantes dans la Bible qui font vraiment réfléchir quant à la nature de ce livre. Alors j'aimerais vous en donner quelques exemples. Parlons du cycle hydrologique. D'accord ? Je pense que vous êtes tous parfaitement au courant de ce qu'est le cycle hydrologique, moi pas. Alors j'explique. L'hydrologie est la science qui étudie le sujet des eaux de la Terre. L'eau s'évapore de la Terre dans l'atmosphère. Elle est rassemblée dans les nuages pour être ensuite redéposée sur la Terre en forme de pluie, de grêle ou de neige. Puis une partie de ce qui retombe sur la Terre s'évapore de nouveau et le cycle continue. Maintenant, une partie des eaux qui tombent sur la Terre vont dans les rivières et terminent dans les océans. Et une autre partie descend dans les immenses grottes phréatiques qui existent sous la Terre, d'où est retirée l'eau par des puits ou des forages. Ce cycle hydrologique était inconnu et une énigme jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'à cette époque, on croyait qu'il y avait des immenses réservoirs d'eau dans sans limite sous la terre, qui récoltait les eaux de la pluie, de grêle, de neige. L'idée d'une évaporation, une évaporation des eaux était insoupçonnée. Mais au XVIIe siècle, certains hommes comme Mariot, Perrault, Allais ont commencé à suggérer l'idée du concept que nous connaissons aujourd'hui, qui s'appelle le cycle hydrologique. Allez avec moi à Ésaïe 55 et voyons si la Bible en parlait déjà 800 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe 55, ce que j'ai lu tout à l'heure, en fait, c'est intéressant. Verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Intéressant ce qu'il dit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Donc la Bible montre et explique qu'elle retourne. Elle décrit ce cycle dans ces termes-là. Et Job 36, 27, il attire à lui les gouttes d'eau et les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages les laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui comprendra le déchirement de la nuit. Donc voilà, donc ça c'est peut-être un petit peu moins clair que l'autre, qui montre que simplement qu'il y a le cycle hydrologique qui existe. Intéressant. Deux, sur ce sous-point. La sphéricité de la Terre. Alors ça c'est vraiment intéressant aussi. Vous vous rappelez sans doute que pendant des siècles, on croyait que la Terre était plate. Les gens pensaient que le monde était plat, comme un disque entouré d'une rivière appelée Océanus. On disait que si tu étais assez fou de naviguer à travers les piliers d'Hercule, ce qu'on appelle aujourd'hui Gibraltar, hein, la partie entre l'Espagne et Gibraltar, c'est ce qu'on appelait les piliers d'Hercule à l'époque, si tu osais passer au-delà de cet endroit, eh bien tu tomberais dans le néant. Pfff, au revoir. Cette idée du monde dura longtemps. Cette conception du monde plate était populaire depuis l'année 150 ans après Jésus-Christ, jusqu'à que le compas soit inventé au XVe siècle et que la thèse du monde sphérique soit réellement prouvée par les voyages de Christophe Colomb et de Magellan. C'est eux qui ont finalement prouvé que la Terre n'était pas plate, mais ronde. Ils auraient dû mieux lire la Bible. Ésaïe 40 en parle. D'accord? 800 ans avant Jésus-Christ. Donc 2300 ans avant la confirmation que la Terre était ronde, scientifiquement, Ésaïe avait dit, Ésaïe 40 et le verset 21 et 22, ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la Terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la Terre. J'étais vérifié aujourd'hui ce matin dans le mot hébreu, et le mot veut vraiment dire cercle. C'est quand même intéressant. C'est pas plat. C'est un cercle, c'est un globe. Et ça, ils ne l'ont que découvert 2300 ans après que cela a été écrit. Continuons, prochain exemple. Le nombre infini d'étoiles. Comment expliquer le phénomène des étoiles? Je ne sais pas si ce soir ça marchera bien pour aller dehors. Regardez les étoiles. Pouah, il y en a beaucoup. Alors les philosophes grecs expliquaient le phénomène des étoiles en disant que la Terre était un objet plat, comme on vient de le dire, qu'elle existait à l'intérieur d'une sorte de globe, sur le bord duquel étaient placées les étoiles comme les joyaux sur le bord de ce globe. D'accord? Donc il y avait un bol comme ça, et il y avait tout autour de ce globe des étoiles, mais plat sur ce globe. En plus, on pensait que le ciel était suspendu par un immense bâton qui traversait le ciel et aussi la terre plate. Le ciel en entier tournait sur ce bâton. D'accord? Au XVIIe siècle, Hipparchus disait, lui il a compté les étoiles, lui disait qu'il y avait 1022 étoiles dans le ciel. Alors il y a Ptolémée qui a dit, mais non, t'as tort, tu te trompes. Il y en a 1056. Kepler a dit, mais non, vous avez les deux torts. Il y en a 1055. Aujourd'hui, les scientifiques, avec les télescopes Hubble et compagnie, nous disent qu'il y a au moins 100 milliards d'étoiles. Et probablement bien plus. Combien de galaxies y a-t-il dans l'univers ? Ben peut-être qu'ils auraient dû mieux lire la Bible, ces gens. Parce que dans Jérémie 33, le verset 22, il est dit « De même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. » Et là, lorsqu'il parle de l'armée des cieux, il parle des étoiles. Et là, la Bible nous dit qu'ils sont incontables. Il y en a trop. On ne peut pas les compter. C'est génial, vous ne trouvez pas ? On continue. Regardez celui-ci. La suspension de la Terre dans le vide. Pendant des siècles, l'une des autres théories les plus avancées à propos de notre planète était non seulement le fait que la Terre était plate, mais qu'elle était fixée sur le dos d'une tortue géante qui nageait lentement au travers d'une sorte d'océan cosmique. Et le fait que le monde flottait non attaché dans l'espace fut découvert par Sir Isaac Newton en 1687. De nouveau, ils auraient peut-être dû lire la Bible. Job, intéressant, c'est le premier livre écrit probablement historiquement, probablement 1500 ans avant Jésus-Christ. Donc là, on a 3500 ans en arrière, Paul écrit Job 26 et le verset 7. Qui dit « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. » La Bible nous dit que la terre flotte dans rien. Quand même génial, non ? Il faut que... Ah ben, il y a le temps encore. On va passer au prochain. Découverte du pétrole. Bon, c'est peut-être pas le bon moment de parler de la découverte du pétrole, à cause de certains problèmes de pollution, de plateformes de pétrole qui explosent dans les Caraïbes, d'accord ? Mais bref, si vous avez une voiture, ou si vous avez une mobylette, pas une mobylette, mais disons un scooter, ou si vous avez un moyen de transport, si vous avez le bus, bien qu'ils soient électriques à Genève, c'est bien, mais on utilise tous du pétrole, d'une manière ou une autre. Bref, en 1950, un entrepreneur israélien, Xiel Federman, a lu dans le récit de Sodome et Gomorre que Dieu avait détruit ces villes par le feu et que la fumée du pays montait comme la fumée d'une fournaise. Alors lui, il s'est dit que c'était peut-être une référence à du gaz souterrain. Eh bien, ce gaz était en fait du pétrole. Il avait parfaitement raison. Et en 1953, le premier puits pétrolier israélien a été mis en service près du site, et ça j'en parlerai plus la semaine prochaine, du site ancien de Sodome et Gomorre, basé sur une pensée biblique. Regardez le prochain. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé au fait que sous la mer, il y a des montagnes et des vallées, des grandes montagnes et des grandes vallées. Il y a encore un siècle environ, on pensait que les océans et les mers avaient les formes d'un bol. Les eaux étaient peu profondes au bord et devenaient de plus en plus profondes au fur et à mesure qu'on les éloignait des côtes, et qu'elle atteignait leur profondeur maximum à mi-chemin entre les continents. Ensuite, le fond remontait de nouveau en pente douce jusqu'à une terre ferme. Donc, on avait l'impression que vraiment, c'était un bol. Nous savons aujourd'hui que cette théorie est complètement fausse. Certains des sommets les plus élevés et des failles les plus profondes se trouvent dans l'océan Pacifique. La fosse de Marianne, à l'est et au sud de l'archipel de Marianne, atteint une profondeur de 11 520 mètres. Ça fait 11 kilomètres. Bien avant le développement de la science océanique, la Bible mentionnait déjà les vallées au fond des mers. Dans un de ses chants de délivrance, alors ça on peut le voir dans 2 Samuel, si je trouve 2 Samuel 22, 16, nous dit ceci. Le lit de la mer apparut, les fondements du monde furent découverts par la menace de l'Éternel, par les bruits du souffle de ses narines. Oui, non, non, il fallait que j'aille à Jonas. Beaucoup plus clair. Jonas 2, 6. Vous vous rappelez, Jonas a été avalé par un poisson. Il est dit ceci. Jonas 2, 6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Donc il dit qu'il a été descendu jusqu'aux racines des montagnes, donc des montagnes sous l'océan. D'accord, encore un exemple. Peu après, là on parle des fontaines de la mer, des sources et des fontaines de la mer. Peu après la Deuxième Guerre mondiale, des navires de recherche découvrirent de nombreux volcans sous-marins. On estime aujourd'hui le nombre à 10 000. D'autres recherches effectuées par William Roubaix de l'US Geological Survey ont montré que la quantité d'eau qui jaillit des flancs de certains volcans sous-marins est de 430 millions de tonnes chaque année. La chaleur dans les profondeurs de terre chasse l'eau emprisonnée dans la roche fondue et la force à sortir par des orifices naturels sur les volcans immergés. Alors c'est intéressant que dans Genèse 7, il décrit exactement ces immenses sources souterraines, vous vous rappelez, pour le déluge. Dans Genèse 7, 11, il est dit ceci, « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. » Alors souvent on dit, ouais, mais l'arche de Noé, c'était une inondation par pluie. Alors c'est vrai, il y avait la pluie, mais là il est clairement dit qu'il y avait les abîmes souterraines qui ont jailli et qui ont aussi donné de l'eau pour le déluge. De nouveau, confirmé dans la Bible. Là, il y a un truc vraiment intéressant, les courants marins. Ça, c'est une des petites illustrations que Meg utilise souvent, parce qu'il est tellement intéressant. Matthew Fountain Maury a été appelé l'inventeur des sentiers marins. Cet Américain est le père de l'océanographie moderne et dirige l'Académie d'Annapolis. À Richmond, en Virginie, une statue de Maury le représente avec la mer dans une main et la Bible dans l'autre. Intéressant. La mer dans une main, la Bible dans l'autre. C'est une statue de lui qui existe encore aujourd'hui. Avant les recherches de Maury, il n'existait pas de carte avec les courants marins. Cette carte que vous voyez là n'existait pas. Un jour, alors que Maury souffrait, son fils aîné lui lut un passage des Écritures, notamment le psaume 8. Il est tombé sur le psaume 8, et le verset 9, « Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Il s'est dit, tiens, il y a des sentiers dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans cette histoire, apparemment, il a contacté ses amis autour du monde. Il leur a demandé de mettre un message dans les bouteilles. De lancer ses bouteilles dans l'eau où ils étaient. Et je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais ces données ont été récoltées. Et par ces bouteilles qui ont flotté, qui se sont montrées être dans les courants, il a pu sortir cette carte des courants marin. Et il déclare, c'est David qui déclare, comme je l'ai dit ici, tout ce qui parcourt les courants marins. Et donc il s'est dit, si la Bible dit qu'il y a des courants marins, ils doivent exister. Et au bout de quelques années, il a pu tracer cette carte avec les principaux courants qui parcourent les mers et les océans. Et son livre, Physical Geography of the Sea, la géographie physique de la mer, était le premier manuel d'océanographie. Comme intéressant, à cause d'un psaume. Il y a tellement de trucs à dire. Je ne peux pas tout dire. Juste encore deux ou trois points. Peut-être on va encore. Et le prochain encore. C'est sûr. Vous dites, mais pourquoi il y avait des rouleaux de toilettes de papier? Bon, je ne peux pas faire ça, il faut que je vous le dise, d'accord? Recul d'une image, voilà. Ah, ça pique la curiosité. Bon, puisqu'on a un repas qui nous attend, on n'est peut-être pas très très pressé. L'hygiène, vraiment intéressant. Bon, on est honnêtes les uns avec les autres, vous n'allez pas être choqués par ça, c'est dans la Bible, d'accord? Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les mesures d'hygiène, même dans les grandes métropoles, étaient très primitives. En règle générale, les excréments étaient jetés dans les rues non pavées, déjà très sales, et qui dégageaient la puanteur horrible. Les mouches y polluaient à l'aise, et les immondices qui leur servaient d'habitat, elles répandaient partout les infections intestinales, faisant des millions de victimes. Quel gaspillage de vie aurait pu être évité si seulement on avait été inspiré où on avait pris des dispositions données par Dieu pour libérer l'homme de ses malhabits. Regardez Deutéronome 23. Deutéronome 23, versets 12 et 13. Voici ce que Dieu dit par rapport à l'hygiène humaine. Et là, pour être précis, la Bible est précise. Deutéronome 23, 12 et 13, tu auras, il parle des Israéliens dans le camp, un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Mais la Bible est vraiment claire. Et dans le Moyen-Âge, ce n'est pas du tout ce qu'ils faisaient, et les maladies étaient terribles. De nouveau, la Bible se montre exacte dans ses conseils scientifiques et ici, dans ce cas, hygiéniques. Je crois que je vais en montrer encore une, puis ensuite on va arrêter. Tu peux aller jusqu'au couteau. Tac. C'est vraiment intéressant, d'accord? Ça, c'est les pratiques, je dirais, hygiéniques, bibliques, qui montrent de nouveau la fiabilité de la Bible. En 1946, le journal de l'Association médicale américaine a publié un article donnant les raisons pourquoi il est recommandé de circoncire les nouveau-nés mâles. Puis Emmett Holt et Rustin McIntosh ont écrit des lettres pour expliquer pourquoi il était recommandé de circoncire l'enfant le huitième jour. En 1946, hein, ils font la recommandation, il faut le faire le huitième jour. Pourquoi? Parce que les nourrissons sont très particulièrement susceptibles à l'hémorragie entre le deuxième et le cinquième jour de la vie. Pourquoi? Parce que la vitamine K, cet élément qui aide dans la coagulation du sang, n'est pas formée dans le corps humain jusqu'entre le cinquième et le septième jour. Une autre substance qui est nécessaire pour le sang se coagule, pour que le sang se coagule, s'appelle la prothrombine. Aujourd'hui, nous savons qu'un enfant de 8 jours a plus de prothrombine ce jour-là qu'à n'importe quel autre jour de sa vie. Ainsi, nous constatons que d'après les considérations évoquées sur la vitamine K et la prothrombine, que le jour parfait pour effectuer une circoncision est le huitième jour. Scientifiquement, c'est prouvé. Alors ça c'est quand même génial. C'est quand même génial, parce que dans Genèse 17, Dieu prescrit avec clarté sa loi sur la circoncision. Et il dit ceci. Genèse 17, 9, Dieu a dit à Abraham, « Toi, tu garderas mon alliance. » Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre vous et moi et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous à l'âge de 8 jours. Quand même balèze, vous trouvez pas? Ah, c'est génial. À l'âge de 8 jours, Genèse 17, 12, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à un prix d'argent ou tout fils étranger sans appartenir à ta race. On devra le circoncire, celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis, prix d'argent, etc. Un mâle incirconcis, etc. Mes amis, Dieu avait prescrit dans Genèse 17 de circoncire les enfants le huitième jour. On aurait pu se dire, mais pourquoi? Ben parce qu'en 1946, ils ont découvert pourquoi il fallait de la vitamine K et de la prothrombine, et c'était le meilleur jour pour circoncire un enfant. Moi, je dis amen. Dieu a toujours raison, mes amis, toujours. Même si vous regardez la Bible, vous dites, tiens, ça, je comprends pas. T'en fais pas, ça viendra. Un jour, on comprendra tout. Je trouve ça absolument génial. Dans la bibliothèque du Louvre à Paris, il y a 5 km d'étagères de livres scientifiques obsolètes, des livres scientifiquement périmés. En 1861, l'Académie française de la science publia une brochure de 51 faits scientifiques qui, soi-disant, étaient en contradiction avec la Bible. Ces 51 faits furent utilisés par les athées de ce jour pour ridiculiser les chrétiens. Bien-aimés, aujourd'hui, plus de 150 ans plus tard, ces 51 faits ont tous été rejetés par les scientifiques modernes. Tous, sans exception, ont été prouvés comme étant des arguments erronés. Ces 51 faits sont tous en parfaite harmonie avec la Bible. Et ce livre-là figure aujourd'hui parmi ces livres obsolètes, ces livres scientifiquement périmés qui se trouvent au Louvre. Et on revient maintenant à 2 Timothée 3,16 qui dit « Toute écriture, la Bible, est inspirée de Dieu. » Mes amis, ce livre est la parole inspirée, soufflée de Dieu. Elle est juste, elle est droite, elle est parfaite, elle est sans erreur, parce que Dieu est sans erreur, Dieu est sans péché. La parole est de même. Écoutez ce que Jésus a dit par rapport à cela. On l'a lu ce matin. David, tu l'as lu sans savoir que j'allais terminer mon message avec ce verset. Jésus dit dans Jean 17:17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. » Mes amis, quel privilège, quelle joie de savoir que la parole de Dieu est vérité. Est-ce que je peux entendre un amen? Ah Seigneur, merci vraiment de tout cœur. Quelle joie, quelle chose étonnante nous avons vu aujourd'hui. Seigneur, combien la science confirme ce qui a été écrit depuis tellement longtemps dans la parole de Dieu. Et il y a tellement d'autres exemples que nous pourrions donner, on en donnera encore la semaine prochaine. Seigneur, remplis nos cœurs de toi et de ta parole. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que moi le premier, Seigneur, j'ai l'impression que je ne passe pas assez de temps dans la parole. Seigneur, je te demande de réorganiser ma vie pour que je puisse me donner encore plus à l'étude de ce livre. Elle est ta pensée, ta parole, elle est vérité, elle nous sanctifie. Oh Seigneur, s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'est pas encore convaincu qu'aujourd'hui soit le jour où ils disent oui, Seigneur Jésus, sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Guide-moi par la parole de Dieu. Seigneur, merci de tout cœur et oui, amen, amen et amen encore.